Une grande consultation publique sur l'eau à l'échelle du bassin Loire-Bretagne est lancée. Donnez votre avis en tant que citoyen jusqu'au 18 juin. Pour contribuer à une vision d'avenir pour l'eau, l'association SOS Loire Vivante ERN France vous informe. Dans le bassin Loire-Bretagne, un des grands enjeux pour reconquérir le bon état de toutes les eaux passe d'abord par des actions pour préserver et restaurer les milieux aquatiques. Écoutons maintenant Vincent Vauquelin de l'ONEMA, l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, puis Stéphane Hippolyte du Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre.
Vincent Vauquelin, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'un milieu aquatique ?
Un milieu aquatique, par définition, c'est un milieu où il y a de l'eau. Alors ça peut être le milieu marin ou des cours d'eau et des plans d'eau, qui sont les milieux aquatiques continentaux. Par contre, on aurait plutôt tendance à sortir de ça les nappes d'eau souterraines, même s'ils communiquent avec les cours d'eau et les plans d'eau. Il y a une faune aquatique spécialisée, une flore aquatique spécialisée. Et quand on parle de milieu, on pense au concept de l'écologie. Un milieu, c'est un biotope, un habitat, c'est des biocénos, c'est-à-dire des communautés vivantes, c'est la flore et la faune associés à ces habitats.
Alors on parle de milieux aquatiques vivants et diversifiés, des sources à la mer. Pouvez-vous nous donner des exemples ?
On a des exemples un petit peu partout dans le bassin de la Loire. On a par exemple les gorges de l'Allier dans le département de la Haute-Loire qui sont des parcours encore très naturels parce que faible densité de population, parce que accès humain assez difficile. Mais si on prend des cours d'eau plus facilement accessibles par les citoyens en général, le cours moyen de la Loire est quelque chose d'assez naturel encore. Malgré tout, malgré l'existence de villes le long de la Loire, avec une certaine charge de pollution, le travail de dépollution qui a été fait depuis les années 60, notamment grâce aux agences de l'eau, fait que la Loire est une rivière relativement naturelle. C'est pas une rivière vierge, mais ça reste un cours d'eau qui a conservé une certaine naturalité.
Alors pourquoi est-il important de préserver et de restaurer les milieux aquatiques ?
On pourrait dire déjà pour eux et puis ensuite pour nous. Alors pour eux, parce qu'il faut qu'on préserve la nature pour elle-même, mais en tout cas pour ce qui concerne les humains, on vit au bord des rivières, on vit dans les bassins versants et les rivières, les plans d'eau nous apportent des services, nous apportent du bien-être.
Alors quels services rendent les rivières à la société ?
Les services les plus connus, c'est les services dits d'approvisionnement. Où on peut consommer les coquillages, capturer les poissons, il peut y avoir le gibier d'eau. Après, il peut y avoir des matériaux qui sont extraits. Pour les milieux aquatiques comme les tourbières, on peut extraire la tourbe, on peut extraire du bois, etc. Il y a la fourniture d'eau, évidemment, l'eau qui arrive jusqu'à notre robinet, l'eau qui sert à irriguer les terres agricoles. Il y a un deuxième type de service, c'est ceux de régulation. Régulation des crues, donc régulation hydrologique, purification naturelle de l'eau, c'est-à-dire que les rivières ont une capacité à abattre la pollution que les hommes génèrent. C'est pas une pollution trop grave. Régulation biologique aussi, c'est-à-dire non-développement d'espèces nuisibles ou envahissantes, ce qui est la caractéristique de cours d'eau et de plans d'eau en bon état, en bonne santé générale. Et puis il y a une troisième série de services qui sont les services socioculturels, c'est toute la dimension spirituelle des rivières, des plans d'eau, parfois des valeurs religieuses selon les cultures, la création artistique qui peut être associée, le bien-être lié aux loisirs aquatiques, à la pêche, aux canoës et en eau vive, la détente, la promenade au bord des cours d'eau. Voilà, ça c'est des choses qui sont des services socioculturels qui dépassent les catégories d'approvisionnement et puis de régulation qu'on a citées auparavant.
Alors l'ensemble de ces services ont-ils été évalués économiquement ? Est-ce que cette valeur des services rendus par les milieux aquatiques est prise en compte lors des projets d'aménagement qui mettent en péril ces milieux aquatiques ?
Alors, il y a des méthodes d'évaluation économique. Elles sont assez rarement utilisées actuellement. Maintenant, des processus en cours, comme la directive 4 sur l'eau, qui est une directive européenne, incitent à utiliser des outils économiques. Et puis, au-delà de cette directive cadre sur l'eau européenne, d'une manière générale, sur un projet d'aménagement précis qui pourrait avoir un impact sur tel ou tel cours d'eau, on peut utiliser des méthodes qui ont été développées, comme l'analyse coût-bénéfice, l'analyse coût-efficacité. On peut penser que quand on a des très gros projets potentiellement destructeurs, ce sera d'autant plus intéressant de chiffrer monétairement les services écologiques pour justement faire la part des choses. Est-ce qu'il faut vraiment conduire cet aménagement ? Est-ce qu'il faut prendre l'option 1, 2 ou 3 quand il y a plusieurs options possibles à cet aménagement afin de minimiser les dégâts sur l'environnement ?
Quand on fait un aménagement sur l'eau, c'est un choix que l'on prend à long terme sur notre environnement et sur nos capacités futures de développement.
Il est vrai qu'un aménagement, c'est fait pour durer et ça dure. Donc se pose en amont la question de l'opportunité de l'aménagement. Mmh. Est-ce qu'on pèse bien les tenants et aboutissants ? Cet aménagement est-il judicieux ? Servira-t-il et servira-t-il sur le long terme ? Un aménagement qui reflète des préférences en général pour une nature qui est maîtrisée. Il est fréquent effectivement que beaucoup de citoyens considèrent qu'un milieu aménagé, qu'il voit classiquement sous ses yeux parce que c'est son quotidien, par exemple un parc urbain, c'est souvent l'image que peuvent avoir une partie des gens de la nature. Je trouve qu'un parc urbain c'est très bien et c'est pas forcément la nature naturelle préservée. Voilà, donc là il y a tout un aspect culturel et historique qui peut évoluer dans le futur, mais qui est largement conditionné par notre histoire passée.
Un changement de mentalité. Alors, comment préserver les milieux aquatiques ?
Si on a des milieux qu'on considère encore en assez bon état, il y a une façon relativement simple, a priori, qui est d'appliquer la loi qui s'applique à l'environnement. Pour ce qui nous concerne, nous, c'est la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006. Elle est récente, hein, décembre 2006. Et cette loi, elle traite de différents domaines pour les cours d'eau et les plans d'eau, la qualité, donc l'absence de pollution ou la limitation des pollutions, la quantité, donc les débits qu'on laisse dans les rivières plutôt que l'eau qu'on prélève pour en faire autre chose. Et puis il y a un autre chapitre dans la loi sur l'eau, donc c'est tout ce qui concerne les seuils et barrages dans le lit mineur des cours d'eau. Bon, ils sont très nombreux, ils font partie de notre paysage familier, et pourtant ils ont des impacts importants sur justement cette diversité et cette qualité écologique des rivières. Et puis un aspect fondamental, c'est que les seuils et barrages, ça crée des retenues, donc des zones calmes, assimilables à des étangs, alors qu'une rivière, dans beaucoup d'endroits de son linéaire, elle est courante. Elle sera conforme à sa vocation naturelle, là où les écoulements se font librement, et non pas dans des retenues générées par les seuils et les barrages.
Quelles actions de restauration des milieux aquatiques, dont ceux qui ont été abîmés, doit-on rapidement mettre en place ?
Il y a des choses qui ont été faites depuis les années 60, c'est-à-dire depuis la création des agences de l'eau, qui est intervenue en 1964, et il y a donc ce gros travail qui a été fait sur l'épuration domestique, toutes les stations d'épuration, et qui a porté ses fruits d'une manière globale. Par contre, il y a deux grands domaines où il y a encore beaucoup de travail à effectuer et de résultats à obtenir. C'est d'une part les pollutions diffuses, notamment d'origine agricole, azote et phosphore, pesticides, donc produits phytosanitaires. Il y a un autre chapitre important, c'est tout ce qui concerne l'aménagement du lit des cours d'eau, notamment les seuils et barrages dont on a parlé, les travaux mécaniques qui ont rectifié les cours d'eau. On l'a fait sans arrière-pensée et sans percevoir les conséquences écologiques dans les années 70, pour des raisons notamment d'hydraulique agricole. On découvre ou on redécouvre aujourd'hui et on documente de plus en plus la nocivité de ces aménagements sur l'état écologique, sur la diversité des cours d'eau. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut améliorer dans le futur. Ce sera un travail sans doute de longue haleine, puisque on a des décennies d'aménagements et de travaux dans ces cours d'eau et qu'on ne peut pas résoudre du jour au lendemain tous les dégâts inhérents à ces simplifications écologiques, à ces aménagements.
En général, les aménagements qui ont été faits, c'était pour des raisons économiques. Est-ce qu'on arrive à trouver actuellement les financements pour ces réaménagements, ces restaurations ?
Les agences prévoient des sommes de plus en plus conséquentes justement pour cette partie spécifique de restauration physique des cours d'eau.
Merci Vincent Vauquelin.
Merci à vous.
La zone humide de Moronville, située au nord de la Loire, dans le département de l'Eure-et-Loire, est gérée par le Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre. Stéphanie Polite, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge de la protection de cet espace naturel. Pouvez-vous nous faire un tableau de cette zone ? À quoi ressemble-t-elle ?
Cette zone est un ensemble de propriétés privées qui a pour singularité d'être une zone humide située au cœur de la Beauce, donc un système très cultivé. Voilà, son intérêt, il est notable parce que c'est un support de biodiversité très particulier, puisque voilà, c'est une zone humide relictuelle dans la vallée de la Connie. Et puis, au-delà de cet enjeu biodiversité très fort, elle a aussi un rôle majeur en termes d'épuration d'eau, qui sont chargées en produits phytosanitaires, et puis de stockage d'eau en cas d'aléa climatique.
Ça ressemble à quoi ? C'est un grand marais ?
Alors, c'est un marais assez longiligne de plusieurs hectares, avec des coteaux assez marqués, qui sont en fait des pelouses sèches, avec une flore aussi particulière, des orchidées, des pelouses, avec des buis, etc. Et au fond, on a effectivement une zone humide à part entière, avec des roseaux hein, qui forment des roselières, voilà des milieux, des espèces très rares, protégées au niveau régional et national, qui confèrent à ce marais une zone assez sauvage.
Pourquoi protéger cette zone ? Quelles sont les richesses principales à protéger ?
Les richesses, elles sont multiples, elles sont faunistiques et floristiques. En 30 ans, on a perdu 50% des zones humides et des marais en France, donc ça voilà, lui confère une rareté assez importante, notamment pour le Eure-et-Loire, qui est un département très agricole.
Alors la zone humide de Moronville, que le Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre protège, dépend en partie de la nappe de la Beauce. Or, on entend souvent parler des problèmes de pollution de cette nappe et des quantités importantes d'eau qui y sont prélevées par l'agriculture du bassin parisien. Ces pressions agricoles mettent-elles en péril directement la zone humide de Moronville ?
Eh bien, tout tout à fait, puisque on est sur une nappe qui est très proche de la surface, donc dès qu'effectivement on a un pompage important pour des cultures, on a un abaissement de la nappe, hein, et ça entraîne une sécheresse superficielle qui est très préjudiciable aux espèces qui sont inféodées aux zones humides.
D'accord. Alors comment faites-vous pour protéger cet espace naturel?
Alors on fait comme on peut, puisque comme le facteur principal qui est le niveau d'eau, on ne peut le maîtriser. On essaye d'adapter nos opérations de gestion à ce facteur-là, c'est-à-dire que déjà climatiquement, aucune année ne se ressemble. On a des printemps pluvieux, des automnes secs, des hivers doux, des hivers rugueux. On essaye d'adapter la fauche sans faire une fauche forcément annuelle. On fauche qu'un tiers de la zone humide chaque année pour ne pas mettre, tous ses œufs dans le même panier. Si les plantes ont beaucoup séché par un manque d'eau important, le fait d'en faucher qu'un tiers ne menace pas le reste du peuplement. Et on essaye de tenir compte des exigences de la plante sans pouvoir maîtriser le niveau d'eau. Après, effectivement, on a aussi un volet de sensibilisation qui est important, puisque nos partenaires, le Conseil Général, que sont les agriculteurs locaux, avec qui on a des discussions sur la réserve en eau, les chambres d'agriculture également, on essaie de discuter. Et après, les mesures de gestion, on les connaît, mais on fait comme on peut en termes de gestion sans avoir effectivement la main sur le niveau d'eau.
Écoutez, Stéphanie Polite, merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Parce que votre avis compte, participez à une consultation publique sur l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques en répondant au questionnaire à votre disposition sur le site internet prenonssoindelleau.fr. Cette émission vous a été proposée par SOS Loire Vivante ERN France avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.